Patriarca, 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 patriarca.
La parole est pleine pour les miens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch. Cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight, nice and hoes.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin, un garçon au féminin.
L'émission pour
déranger.
Une émission féministe
les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois
de 18h30
à 20h
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Bonsoir.
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 On s'extasiait alors devant notre jingle, excusez-nous, hein, ça fait pas longtemps qu'on l'a.
Alors, ce soir, sur Dégenré, c'est une émission avec notre invité Mélo sur les luttes féministes dans les mouvements autonomes en Italie dans les années 70.
Un titre à rallonge un peu.
Ça y est, mais j'ai réussi à le dire d'un coup. Et voilà, donc une émission avec Leïla à la technique, Hélène, Mélo et moi.
Donc Amélia. Et donc on avait envie d'aborder ce thème, alors pas justement, pas dans une perspective, je sais pas, de historique, de fossiles qu'on étudierait de manière sociologique ou je sais pas, ou comme des spécialistes, mais plus parce que politiquement, on a l'impression que ça fait écho à des luttes actuelles qu'on peut mener. Et ça, à plein de niveaux. Enfin, on va essayer de faire aussi des parallèles tout au long de l'émission sur tous ces niveaux politiques dont on se nourrit aussi à l'heure actuelle. Et même des fois des choses peut-être des choses sur lesquelles on aimerait bien revenir parce qu'il y a malheureusement des traces qui se sont perdues, j'ai l'impression, de lutte à l'époque, que ce soit donc au niveau un peu je dirais général global des mouvements autonomes et de qu'est-ce que ça signifie de lutter de manière autonome et après plus spécifiquement au niveau du féminisme sur plein de questions aussi que ça posait justement sur le lien avec les autres formes de lutte, les questions de rapport au corps aussi à la violence aussi parce que Voilà, on le verra un petit peu. Voilà, il y a eu des modes de lutte qui ont été choisis, voilà, assez forts. Et voilà, donc c'est sur tout ça, que tous ces ponts-là, qu'on a envie d'insister tout au long de l'émission. Et du coup, peut-être Mélo, pour commencer, peut-être tu peux nous expliquer un petit peu, toi, ta démarche, pourquoi tu t'es penchée sur cette époque-là, qu'est-ce qui t'a intéressée là-dedans ?
Ouais, alors je vais essayer de résumer et d'être claire. Alors en fait, comme tu le disais, le mouvement autonome, le terme autonome déjà, il est assez fort et assez signifiant, puisque en fait ça correspond à des luttes qui ont été menées de façon détachée des partis et des syndicats et on va dire des organisations classiques, et que pourquoi moi j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, entre autres parce que j'étais aussi active ces dernières années dans des sphères qui sont un peu les héritières entre guillemets de ce mouvement-là, puisque des sphères qui correspondent ni à des associations, ni, j'en sais rien, à du travail salarié ou quoi. Mmh. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait un peu des liens, mais très peu de mémoire finalement. Et du coup pourquoi je me suis penchée là-dessus ? Déjà, il faut que je précise, c'est que je ne me suis pas penchée là-dessus toute seule, je me suis penchée là-dessus avec d'autres personnes. Et en fait, on a mené des recherches là-dessus parce qu'on s'est aperçu que finalement, on avait hyper peu de connaissances de ce qui s'était fait avant nous. Quelles avaient été les formes de lutte avant nous, dans quelle sphère, par qui, comment ça s'était fini, où étaient aujourd'hui les gens qui avaient participé à tout ça. Donc on s'est penché là-dessus. Et pourquoi l'autonomie italienne ? Parce que c'est le mouvement autonome qui a été le plus fort en fait en Europe à cette époque-là, et que c'est un mouvement qui a concerné des dizaines de milliers de personnes et qui a pris des formes hyper différentes et vraiment pleines de... Enfin, d'une richesse incroyable, parce que pleine d'imagination, pleine de... Enfin, quelque chose de vraiment riche, quoi. Et en fait, on s'est penché là-dessus, et il se trouve que, moi, j'ai eu de l'intérêt à travailler là-dessus, mais, je suis aussi féministe, on va dire, pour résumer, pour employer des gros mots. En fait, je suis... Enfin, c'est quelque chose qui est présent depuis plusieurs années, en fait, et que j'ai pas du tout envie de lâcher. Et du coup, je vois pas pourquoi j'aurais pas été féministe aussi dans ma façon de mener ces recherches. Donc forcément, à un moment donné, ça pose la question de « Ok, qu'est-ce qui s'est passé pour les femmes à l'intérieur de ce mouvement autonome ?» Quelles ont été leurs formes de lutte, et puis au-delà, enfin je dis femmes pas au sens essentialiste pour le coup, enfin j'imagine que dans les précédentes émissions vous avez eu largement l'occasion d'expliquer en quoi votre posture elle n'était pas essentialiste mais plus matérialiste.
Oui, en tout cas pour repréciser, parce que j'ai l'impression que c'est toujours intéressant de se poser sur ces questions-là, en fait, c'est-à-dire que c'est pas la femme par rapport à son sexe biologique, et qu'est-ce que la nature impliquerait là-dedans, ou je sais pas quoi, que c'est pas...
Je précise ça parce qu'en fait, très vite, quand on se penche un peu sur les femmes à l'intérieur du mouvement autonome, on s'aperçoit que c'est pas les femmes, justement, effectivement, au niveau biologique, uniquement du tout, parce qu'il y a eu aussi un fort mouvement de lutte lesbienne, de lutte gay, de lutte trans ou quoi, donc j'en parlerai plus tard. Mmh. Et du coup, moi, j'ai cherché à me renseigner un peu sur quelles avaient été les luttes des femmes à l'intérieur du mouvement autonome, et en fait, c'est super dur de trouver des informations. Et du coup, ça a été un boulot à part entière, en fait, de creuser dans ce sens-là et d'essayer de rencontrer des gens qui pourraient expliquer un peu ce qui s'était passé, trouver des traces ou quoi, et voilà.
Et ça du coup, dans ce processus de recherche-là aussi, c'était de manière autonome, puisqu'il n'y a pas de mémoire... je dirais, beaucoup médiatique ou choses comme ça.
Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un... Comment dire ? Il y a peut-être pas une volonté, parce que ça ferait théorie du complot, mais actuellement en Italie, il y a en tout cas une très très forte invisibilisation de ce qu'a été le mouvement autonome. Donc très peu de transmission en général sur ces années-là, donc on imagine bien qu'encore plus sur des luttes spécifiques, comme les luttes des femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on entend parler du mouvement autonome en Italie, c'est essentiellement en termes de ça a fini dans la lutte armée, le terrorisme et la violence, et il n'y a rien à retenir de ces années-là.
Voilà, c'est une espèce de simplification totale.
Du coup, c'est vrai que dès qu'on essaye de rentrer un peu plus dans le détail, et ben, c'est d'autant plus dur.
Ouais, c'est un peu aussi, ben, si on prend les luttes féministes en France dans les années 70, le seul truc qui est gardé, justement, c'est la simplification. Genre, c'est résumé à elles ont obtenu la pilule et le droit à l'avortement, et puis voilà, et elles brûlaient leur soutien-gorge.
Oui, autre image répandue.
Et à part ça, il n'y a rien. Alors que, bah, moi aussi, je sais pas, ce qu'on trouve intéressant dans le fait de revenir là-dessus, c'était aussi le fait de voir que dans les années 70, donc, ben, soit dans différents pays, enfin, en tout cas en France, en Italie, aussi peut-être dans d'autres pays d'Europe, aux États-Unis, bon, je sais pas exactement quoi, tout ce qui se passait ailleurs, quoi. Mais les mouvements féministes, ils étaient vraiment liés à d'autres luttes. Enfin, par exemple, c'était directement lié à la lutte des classes. Et du coup, il y avait vachement un parallèle fait avec, avec d'autres formes d'oppression. Je sais que, c'est, par exemple, dans beaucoup de textes féministes, il y a vachement aussi des modèles et des idées qui sont reprises de la lutte des Noirs aux États-Unis, pas mal des Black Panthers, tout ça, enfin, du coup, des questions de non-mixité. Et du coup, c'est vachement aussi inspiré de ces luttes-là. Enfin, il y a vachement de liens qui sont faits. Et c'était vachement posé sur l'autonomie, l'autogestion, agir sans syndicat, remettre en cause la hiérarchie, tout ça. Alors que maintenant, la seule chose qu'on entend parler des féministes en France, en tout cas, c'est... en tout cas, ce qui est médiatisé, c'est des trucs qui sont très institutionnels. Et qui sont rarement mis en lien avec d'autres luttes, quoi, qui vont être des revendications qui vont surtout concerner, par exemple, des blanches bourgeoises, je sais pas moi, style la parité, les chaînes de garde, où ça va pas aller très loin, c'est très des trucs institutionnels, alors qu'il existe d'autres groupes, d'autres mouvements, mais dont on parle peu. Mmh. Ou alors, d'autres groupes vont se faire, je pense à Ni Pute Ni Soumise, qui vont se faire récupérer direct par des partis politiques, des institutions, pour finalement, par exemple, servir un discours raciste et sécuritaire qui va servir à ces partis politiques, quoi. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que ça nous disait bien aussi de revenir sur les années 70 et sur l'autonomie.
Oui, un peu sur la racine aussi de plein de revendications et de luttes, quoi. Mmh.
Et pour commencer, du coup, on a un peu fait des recherches aussi pour essayer de trouver des morceaux de cette époque. Donc, comme il y a 15 jours, on va écouter des vieux tubes des années 70.
Il y a une semaine même.
Ah ouais, il y a une semaine, c'est vrai qu'on est le cinquième mercredi du mois. Donc voilà, quoi, à la guitare, tout ça. Et alors là, pour commencer, ça va être Giudecca. Bon, je prononce peut-être pas très bien. Une chanson de Giovanna Marini. Qui est, alors a priori, un peu une des seules femmes connues qui a toujours chanté des chansons politiques de lutte dans les années 70. Pas spécialement féministes, quoi. Enfin, des chansons de lutte sur la lutte des classes, l'autonomie, tout ça. Et donc, ce morceau, pour vous lire un petit passage, c'est en gros la traduction en français que nous devons à Alice, merci Alice. C'est Giudecca, notre abandonnée, 20 ans de faim et d'exploitation, le moment est arrivé de leur dire ça suffit et de changer. Étudiants, femmes, ouvriers, nous avons occupé l'étude, si le préfet vient avec ses sbires, on ne bougera pas, on restera là. Voilà, alors en direct, en italien.
Ci piani, se magna e bistecca, e dalle case cantieri e ho pure te fai oggi neri se ti permetti a scioperà e ho pure te fai oggi neri se ti permetti a scioperà e con te si fa si al dopo scuola con la cipria e con i cioccolatini e pro giù de che li parroni a giù de chini e gambrosia e pro giù de che li parroni a giù de chini e gambrosia studenti, donne, operari avemo occupa il dopo scuola
Après ce morceau d'époque, donc, on reprend avec cette émission sur les luttes féministes en Italie. Et donc, Mélo, je ne sais pas, peut-être tu peux un peu nous raconter vos recherches, comment ça s'est passé, justement, vu qu'il y a peu de mémoire. Comment vous avez réussi à retrouver des archives, des personnes?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc, pendant genre 2 ans à peu près, on a travaillé à partir de lectures, de bouquins en français, en italien et tout, en sachant que déjà les bouquins c'est difficile à trouver. Et puis en fait au bout d'un moment la frustration nous a poussé à vouloir carrément rencontrer des gens parce que en fait trop peu d'informations ou trop peu d'informations détaillées et du coup on avait envie d'en savoir plus. Et en fait on a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était venu à Grenoble et qui participait à un squat à Milan qui s'appelle le Cox 18 et qui s'occupait des archives de ce squat. Et il se trouve que les archives de ce squat, elles contiennent des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs de cette période-là, enfin donc des années 70. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, en Italie, il y a une très forte tradition dans les milieux militants d'écrits et de publications et du coup d'archivage de ces écrits et de ces publications. Donc quand on a su que ces archives elles existaient, on s'est dit bon ok, ça va être de la matière pour pouvoir continuer à travailler et avoir plus d'informations et plus de détails quoi sur des aspects spécifiques de ce sur quoi on essayait de travailler quoi. Donc on s'est dit on va aller en Italie, on va aller à Milan et puis on va fouiller dans ces archives et puis on va photocopier et puis aussi on avait l'idée d'essayer de trouver peut-être de nouveaux supports autres qu'écrits et de trouver des photos ou ce genre de choses. Et donc ça s'est fait, on est allé à Milan et en fait on a eu la chance que la personne qu'on avait rencontrée qui nous avait parlé de ses archives a pris vachement à cœur le fait qu'on vienne avec cet état d'esprit de vouloir en savoir plus. Et en fait c'est quelqu'un qui lui-même s'est énormément intéressé au mouvement autonome et qui connaît des tonnes de gens en fait sur Milan qui ont participé à ce mouvement. Et en fait, on est arrivé là-bas et on a été un peu dépassés. C'est allé au-delà de nos attentes, puisque en fait, on s'est aperçu qu'on avait, sur les 3 jours qu'on passait là-bas, on avait déjà 3 ou 4 rendez-vous de Calais avec des gens à qui on avait dit « Ah là là, il y a des Français qui viennent, qui s'intéressent au mouvement, alors faut leur raconter, faut leur dire, machin. » Et donc, Roberto, qui était la personne qui nous accueillait, il nous avait calé ses rendez-vous. Alors à chaque fois, selon des thématiques, alors il y avait le fils d'un avocat qui a été actif dans ces années-là, qui devait plus nous parler de la lutte qu'avait menée son père au niveau juridique, d'accompagnement en fait des prisonniers politiques notamment, ce genre de choses. Et puis de tout ce qui s'était passé dans les tôles à cette époque-là. Il y avait une rencontre qui avait été calée avec un type qui s'appelait Ughetto, qui était quelqu'un d'actif dans la branche armée de l'OTA Continua. Et puis il y avait aussi un rendez-vous qui avait été calé avec Nicoletta, qui est prof en question de genre à la fac de Milan. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, les premières rencontres, ça a été les rencontres avec les mecs, et dont ce fameux Ughetto, quoi. Et alors, je vais raconter un peu.
L'OTA Continua, par exemple, c'est pour préciser un peu, ça veut dire la lutte continue.
Ouais.
C'est ça. Oui, c'est pour donner des idées un peu de mouvement et tout.
Et du coup, donc ce fameux Huguetto, j'ai envie de raconter un peu comment ça s'est passé, parce que alors il se trouve que Huguetto, c'est quelqu'un alors qui est assez bien conservé, plutôt beau gosse, plutôt style un peu dandy, voilà quoi, enfin un peu, tu vois, un peu charmeur et tout. Et donc ce fameux Huguetto, on commence l'entretien et puis très vite on en arrive à la question de ok, et les femmes dans le mouvement quoi. Mmh. Et Huguetto qui nous dit « Ah, mais les femmes dans le mouvement, mais aucun problème, mais jamais eu à se plaindre de nous, on a toujours été très correctes, machin et tout. » Puis hop, il arrête là, puis il attend la question suivante, quoi.
Il n'y avait pas grand-chose à en dire, quoi.
Ah bah, c'était expédié en 2-2, quoi. Et moi, j'étais mais stupéfaite, quoi. Stupéfaite de autant de désinvolture et de bon bah on passe au sujet suivant quoi. Et de aussi peu de contenu et de j'ai saisi en fait à ce moment-là que je pense qu'il avait pas compris la dimension de la question qu'on lui posait quoi. Et donc ça m'a vraiment hyper brassée. Comme ben pour les raisons que j'expliquais en fait au début de l'émission, c'est que oui, OK, je fais des recherches sur l'autonomie italienne, mais je suis aussi féministe et du coup, j'ai pas du tout envie en fait de m'entendre expédier une question comme ça en 2 minutes sans la relever quoi. Mmh. Et donc c'était vraiment hyper énervant quoi. Donc ça a encore renforcé l'envie d'en savoir plus et puis de pouvoir après communiquer ce que j'avais appris en fait là-dessus, parce que ça me paraissait complètement aberrant qu'on puisse parler du mouvement autonome sans parler des luttes que des nanas avaient menées à l'intérieur de ce mouvement. Et donc on en arrive à la rencontre avec donc cette personne dont je parlais tout à l'heure, Nicoletta, qui est prof en question de genre à la fac de Milan, et qui a été la rencontre, enfin quoi. Ah, je respire, enfin j'ai des informations sur les féministes italiennes et comment ça s'est passé au sein du mouvement autonome, enfin quelle lutte il y a pu avoir, et puis ouais, un peu plus de matière quoi.
Et parce que du coup, elle, c'est un peu le sujet de ses études en fait, les mouvements féministes dans les années 70.
Non, ou... pas spécialement, mais disons qu'elle a une connaissance assez pointue de l'historique du féminisme italien, et puis je pense que elle est, enfin ce qui est sûr, c'est qu'elle est, c'est quelqu'une qui est proche en fait de ce qui peut se brasser sur Milan au niveau militantisme encore aujourd'hui. Mmh. Et du coup, qui connaît en fait les personnes qui ont pu faire partie du mouvement autonome. Et puis elle avait 13 ans ou 14 ans dans les années 70. Et au moment où les luttes féministes ont commencé à partir bien. Et du coup, elle se rappelle en fait de cette période-là. Et elle était dans un petit village de campagne. Et du coup, comment ça s'est articulé aussi. Enfin, quelles répercussions il y a eu sur les campagnes des luttes qui étaient menées plus à la ville. Et de quel souffle, en fait, ça a pu amener pour les nanas à la campagne, ce qui se brassait dans ces années-là.
Ok. Voilà. Et du coup, peut-être on peut commencer, parce que là, c'est pas évident de voir un peu l'ampleur de ces mouvements, enfin de se représenter l'ampleur de ces mouvements, parce que je crois qu'un parallèle avec nous en France, je pense que ça pourrait être mai 68, mythique, hop, tout le monde dehors, grève généralisée, etc. Mais vraiment, comme tu disais tout à l'heure, en Italie, ça a encore pris une autre dimension. Donc peut-être tu peux... Tu peux commencer à nous expliquer, ou on se fait une petite pause musicale d'abord?
Oh ben je peut-être demande,
voilà, c'est un peu, voilà, c'est prise de décision collective. Comme on a plein de choses à vous dire, on se dit voilà.
Tout à fait en direct. Je me disais qu'une petite pause musicale nous mettrait dans l'ambiance, vu que le prochain morceau est un morceau plutôt, je pense, d'une chorale féministe française, donc 70 aussi, et qui est plus sur les luttes des femmes ouvrières, enfin l'intérieur des usines. Alors je me dis, ça pourra nous mettre dans le bain.
Voilà.
Deux cents dans l'atelier, chacune sa machine. Les heures défilent comme des pièces sur le tapis roulant. Tiens, y'a le petit dernier qu'il faut faire vacciner. Bon Dieu, mon fils, qu'il vient encore de se casser. Comment je vais me débrouiller pour faire mon compte de chemisier? Je laisserai bien tout tomber, merde la contre-dame. Tant de choses ont changé depuis que l'on occupe.
les connaissances. Chacune a su trouver son propre rythme. L'atelier s'est retrouvé complètement bouleversé. Prendre son petit déjeuner avec le temps de le savourer. Voir un peu les enfants au lieu de les expédier. Va-t'en d'usine, Suzy, à rester dans ton coin. Mais ça ne sera plus possible de reprendre comme avant. Tout ce qui remonte, bon sang, quand on y repense. Tous les copains partout, les grèves qui se déclenchent. Ce qu'on a forgé ici, personne ne pourra le détruire. La 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 la.
Donc dans les années 70 en France, voilà, donc vous l'avez compris dans la chanson, des grèves, des occupations, des mouvements collectifs. Et donc en Italie à cette même période, alors Mélo, est-ce que tu peux essayer de nous donner un peu des grandes lignes du foisonnement de toutes ces luttes?
Alors, en Italie, dans ces années-là, donc effectivement, il y a une ébullition pas possible. C'est hyper enthousiasmant de se pencher sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc en fait, ça débute à la fin des années 60, où il y a des conflits sociaux énormes, et puis vraiment une dégradation en fait de la qualité de vie pour la plupart des gens en Italie, enfin des ouvriers et ouvrières italiens, et du coup une augmentation du coût de la vie, une augmentation des pâtes. Ça peut paraître un peu bête, mais en réalité c'est la base de l'alimentation de la majeure partie des gens à cette époque-là, et même les pâtes ça augmente, une augmentation
comme le pain, justement en France aux périodes où ça a beaucoup augmenté, ça a créé des
puis une augmentation en fait du coût de la vie en général qui est pas possible. Et en fait, je résume, hein, mais à cette époque-là, c'est encore l'époque des grosses concentrations ouvrières dans le nord de l'Italie. Il y a aussi énormément d'immigration à l'intérieur du pays entre le sud qui est très pauvre et le nord industriel, donc beaucoup de gens qui immigrent du sud vers le nord. Et en fait, comme c'est pas une immigration qui vient d'autres pays, il se trouve que les gens qui se retrouvent à monter dans le nord parlent déjà italien. Donc en fait, il y a une espèce de facilité à pouvoir rentrer en communication, puisque les ouvriers parlent la même langue. Et du coup, c'est pas comme en France où en fait peut-être les luttes elles ont été plus difficiles parce que les gens qui avaient immigré d'autres pays parlaient pas forcément français directement ou quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est qu'en fait il y a une espèce de comme ça de facilité, enfin une facilité, on va dire, à mener les luttes ensemble parce que déjà il n'y a pas de barrière de langue, quoi. Il n'y a pas de chantage non plus à l'expulsion possible.
Oui.
Donc c'est quand même un contexte assez spécifique. Et puis il y a aussi le fait qu'à cette époque-là en Italie, donc il y a le Parti communiste qui est très très fort, qui est le plus gros parti communiste d'Occident. Et du coup, il y a une forte tradition, quoi, de lutte qui est liée à l'importance du Parti communiste, quoi. Et il y a aussi le fait que il y a une tradition de lutte contre le fascisme, puisqu'il y a eu Mussolini au pouvoir il y a pas si longtemps que ça, et du coup une forte tradition antifasciste. Et donc tout ça, ça fait que ça bouillonne énormément. En plus, il y a le fait que le Parti communiste italien, il renonce à accéder au pouvoir seul. Il préfère la stratégie de s'allier en fait avec l'autre gros parti italien qui est le Parti démocrate chrétien. Et en fait, ça fait qu'il y a des tonnes de communistes italiens qui se sentent trahis par le Parti communiste et qui en fait sont pas d'accord avec cette alliance de partis et du coup qui vont s'orienter vers des luttes qui vont sortir en fait des syndicats, des partis ou quoi. Et c'est pour ça qu'on en arrive en
parce
fait aux luttes
autonomes.
Qu'ils
n'ont
plus rien
à attendre d'un parti qui les trahit, quoi.
Voilà. Et du coup on en arrive donc à ce fameux terme autonome. Et du coup les luttes autonomes, ça a pris des tonnes et des tonnes de formes différentes. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une richesse incroyable dans ce mouvement. C'est que ça débouchait sur des luttes dans plein de secteurs. Donc il y a eu énormément d'occupations, par exemple, d'occupations d'usines, mais aussi d'occupations de logements. Puisqu'en fait, il y avait énormément de problèmes de logement, les loyers étaient chers et en même temps, il y avait vachement de spéculation, vachement de logements vides. Donc des quartiers entiers se sont retrouvés à être squattés et pas squattés par des jeunes ou quoi, hein, squattés par des familles. Enfin. C'était vraiment
une pratique qui s'est
une pratique largement répandue et qui concernait beaucoup beaucoup de gens quoi. Donc ça c'est pour l'aspect logement, mais il y a eu aussi toutes les luttes qu'on appelle de réappropriation ou de d'autoréduction. Donc par exemple les autoréductions sur les transports, quand il y avait des augmentations sur le prix des transports, les gens refusaient de payer le nouveau prix ou alors refusaient de payer tout court. Des autoréductions au niveau de la nourriture, où en fait les gens rentraient dans les supermarchés, se servaient et ressortaient. Des autoréductions sur le téléphone, en refusant de payer les factures. Enfin, voilà, ce genre de pratiques.
Ouais, alors justement, il y a donc plein de pratiques. Mais sur l'autoréduction, j'avais envie de vous lire l'extrait, un extrait en fait d'une pièce de théâtre de Franca Ramé et Dario Fo, deux auteurs italiens et italiennes qui ont beaucoup marqué en fait le théâtre italien en fait par une pratique... par des pratiques communistes au sens avec une revendication sociale très forte et féministe. Dans tout le travail de Franca Ramé, il y a toute une dimension féministe. Mais je vous en reparlerai un petit peu plus de ses écrits après. Et donc concernant ce qu'on appelle donc les autoréductions, il y a une femme dans une des pièces qui dit, alors, les autoréductions, j'y ai toujours participé. Ça me remplit d'enthousiasme. C'est beau comme c'est beau. On est 30, 40, 50 femmes du même quartier. On entre dans un supermarché, on fait ses courses. Ça fait combien ? 100 000 lire. Non, nous, on n'en payera que 50 000. Autoréduction de 50% parce que sur l'autre moitié, vous y gagnez encore. Voilà, donc ça montre un peu comment les habitantes et les habitants, à un moment, ils reposent leurs propres conditions, en fait, de se dire « mais on n'est pas obligé de subir les conditions de vie, etc., qui nous sont imposées, on peut aussi reprendre du pouvoir là-dessus ». Et donc voilà, c'est des femmes, des enfants, etc., qui sont dans ces pratiques-là aussi, quoi.
Ouais, tout à fait. Mais en plus, ce qui est vachement intéressant par rapport à cette période, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on en retient, et c'est ce que je disais aussi au début de l'émission, les années 70, c'est les années de la lutte armée, du terrorisme, c'est mal. Enfin, je veux dire, on est tellement aujourd'hui dans le consensus mou et dans le degré zéro de la réflexion par rapport à quel moyen de lutte on se donne, en fait, pour effectivement reprendre du pouvoir sur nos vies, qu'on a l'impression que c'est complètement... Enfin, c'est pas une impression, ces années-là sont complètement diabolisées ou invisibilisées. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant qu'on en arrive à ce qui s'appelle la stratégie de l'attention, que je pourrais expliquer après, c'est-à-dire qu'avant qu'on en arrive à ce qu'il y ait des gens qui se fassent désinguer en pleine rue, à ce qu'il y ait vraiment une tension et le recours aux armes ou quoi, il y a eu quand même plusieurs années qui se sont passées, parce qu'en Italie, ça a duré 10 ans, le mouvement autonome. Et en fait, sur toutes ces années, il y a des tonnes de choses qui se sont passées et qui ont été vraiment très riches d'expériences et concrètement de vie, réappropriée par les gens à tous les niveaux, quoi. Et donc, par rapport à ce mouvement-là, les femmes, elles étaient très présentes. Et ça, je vais essayer de détailler un peu. C'est que, en fait, c'était pas des luttes politiques qui se passaient, dans un secteur ou à l'usine ou quoi. C'était des luttes qui concernaient tous les aspects du quotidien, donc qui concernaient tout le monde. C'est-à-dire, ce que tu disais, aussi bien les enfants, les jeunes, les femmes, les hommes, les ouvriers, les ouvrières, les vieux, enfin, toutes les catégories, en fait. Et qu'en fait, toutes les catégories pouvaient se retrouver mélangées dans des luttes qui leur étaient communes. Et en même temps, il y a eu eu l'émergence aussi de luttes de catégories qui s'identifiaient comme catégories et qui ont essayé de dénoncer les situations de leur oppression spécifique, quoi. Et c'est là qu'en fait on retombe sur la question de l'influence très forte des mouvements afro-américains de ces années-là sur les mouvements féministes italiens. Et ça, c'est une donnée hyper importante, ça a été une source d'inspiration très 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 forte dans ces années-là, et qui a permis l'émergence aussi de luttes autonomes au sein de l'autonomie, de la part des femmes, mais aussi de la part des trans, et aussi de la part des gays, et aussi de la part des lesbiennes, qui à chaque fois luttaient sur les situations spécifiques de leur oppression, et qu'est-ce qu'elles ou ils avaient à en dire et à revendiquer.
Et alors, avant de creuser plus cette dimension, cette dimension-là de ces luttes, donc sur les questions féministes et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une dimension que tu as peu abordée, et j'ai l'impression qu'il ressort pas mal dans différents écrits, c'est tout ce qui est lié à, je dirais, à l'outil de production, en fait, donc aux usines et tout. Enfin, j'ai l'impression que c'est, il y a eu dans le monde ouvrier, tout ça, ça a été énorme aussi par rapport à des usines comme Fiat et tout ce qui s'est passé. Je sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus.
Sur les luttes à l'intérieur des usines?
Ouais, enfin, et quelle forme aussi ça prenait. Enfin, j'ai l'impression que c'était. Enfin, là aussi, les modes d'action, ils étaient forts, quoi. Enfin, c'était pas juste des grèves, quoi, j'ai l'impression.
Bah non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où les syndicats ont commencé à être dépassés par les luttes à l'intérieur des usines, ça s'est mis à partir dans tous les sens, et notamment, il y a eu énormément de sabotage. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi un espèce de... une rencontre incroyable, en fait, entre le vieil ouvrier qui était en fin de carrière et qui avait connu plus les luttes parce qu'il avait une culture communiste ou une culture syndicaliste, et puis les jeunes qui arrivaient du sud, qui avaient rien à perdre et qui étaient dans des modes de lutte vachement plus frontaux ou vachement plus cash, à dire ok, on veut pas nous entendre, bah c'est pas grave, on va saboter la production. Et du coup, avec, je sais pas, dans les usines Fiat, la production de bagnoles qui est caillassée à la sortie de la chaîne de montage, ou je sais pas, des contremaîtres qui étaient vraiment trop chiants avec les ouvriers, qui se faisaient tomber dessus et péter la figure. Ou enfin, à l'époque, il y a une pratique que peut-être je peux expliquer maintenant qui s'appelle la jambisation. Et la jambisation, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est tirer des balles dans les genoux des gens. Et à l'époque, c'est vrai qu'un contremaître qui était vraiment trop chiant avec les ouvriers,
trop tyrannique,
ou voire qui était fasciste, parce qu'il y avait des syndicats fascistes à l'intérieur des usines, ça pouvait arriver qu'ils se fassent jambiser, quoi. Et c'est vrai que c'est des modes de lutte qu'aujourd'hui, qui sont tabous, quoi. Aujourd'hui, on n'en parle pas, parce qu'aujourd'hui, parler de violence, oulala... surtout pas, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que il y avait c'était des modes d'action directs avec une part de violence assumée et qui s'ancraient dans une lecture de lutte des classes, quoi.
Et
de réappropriation
de réalité,
du prolétariat,
c'est ce qui s'ancrait vraiment dans les réalités sociales, et j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé là aussi dans les usines et tout, que ça fait vraiment que ça fait écho, en fait, à, enfin voilà, aussi aux luttes dans toute la société, enfin que c'est pas sectorisé, et que du coup ça pose aussi, enfin je sais pas, ce que dans notamment dans les recherches que vous avez faites, moi ce qui m'a frappé, c'est comment ça remet en question aussi le travail salarié en général. Enfin, il s'agit pas juste de dire on est dans des mauvaises conditions de production, quoi. Les ouvriers, à un moment, ils vont jusqu'à dire mais c'est quoi, en fait, ce travail qu'on fait pour les patrons, qu'est-ce que ça veut dire travailler,
mais des critiques du travail salarié qui vont beaucoup plus loin qu'aujourd'hui, et qui sont énoncées par les ouvriers et les ouvrières, qui vont dire à un moment donné mais nous, ce qu'on nous amène à produire, de toute façon on s'en fout, quoi, ça nous intéresse pas, et tout le bénéfice il est pour le patron, il est pas pour nous, et du coup des luttes sur les conditions de travail, mais pour pouvoir continuer à lutter. C'est-à-dire que je veux bien expliquer mieux, c'est-à-dire que les gens, ils veulent pas des meilleures conditions de travail ils veulent des meilleures conditions de travail pour avoir la niaque, pour pouvoir continuer à lutter, pour aller encore plus loin qu'obtenir des meilleures conditions de travail. C'est ça le contexte, en fait, l'état d'esprit de l'époque. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que effectivement, c'est comment dire, c'est pas des luttes qui concernent que le travail salarié ou que l'usine, c'est des luttes qui se répandent à l'extérieur de l'usine. Est-ce que c'est ce que la raison, c'est entre autres ce que j'expliquais au début, c'est la dégradation des conditions de vie, donc des luttes pour le logement, pour de meilleures conditions de vie ou quoi. Et du coup, ça fait que bah très vite on en arrive à des revendications dans des manifs de femmes où les femmes revendiquent le fait de qu'elles en ont marre en fait de soit avoir la double journée, soit d'être cantonnée à la maison dans un rôle de femme au foyer ou de mère, quoi. Mmh. Et donc là, on en arrive à... Et puis après, avec tout ce qui s'est cristallisé autour de la lutte pour la contraception et l'avortement.
D'accord, donc on va peut-être se faire une petite pause musicale avant de continuer sur la spécificité de ces luttes de femmes.
Ouais, on proposait d'écouter un morceau qui s'appelle... La Malcontenta, et c'est une chanson qui est détournée par des femmes dans les années 70, où le détournement de... Alors, paraît qu'il y a un problème avec mon micro, oui, qu'on m'entend mal. Du coup, je vais hurler.
Voilà, n'hésite pas.
Ça marche. Ouais, où du coup, les détournements de chansons, c'est un truc qui a... beaucoup été utilisé dans les luttes féministes en général, et là c'est un détournement d'une berceuse populaire. Et alors, si je vous en lis un petit extrait, donc une traduction, c'est Thérésina la mécontente. Papa jouit de la vie et maman souffre. Papa va au restaurant, maman trime tout le temps. Papa mange des petits légumes, maman travaille jour et nuit. Papa mange et boit du vin, maman trime avec le petit dernier. Enfin voilà, ça continue comme ça et on l'écoute.
Teresina la malcontenta, babbo gode, mamma stenta. Babbo va all'osteria, mamma tribola tuttavia. Babbo mangia le erbe cotte, mamma tribola giorno e notte. Babbo mangia e beve vino, mamma tribola col cittino. Babbo mangia li fagioli, mamma tribola coi figlioli. Babbo mangia il baccalà, mamma tribola tutt'andà. Babbo mangia le polpette, mamma fa delle crocette. Teresina la malcontenta, babbo gode, mamma stenta.
Alors, vous êtes toujours sur Dégenré, sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Et donc, ce soir, comme vous l'aurez compris, sur les luttes féministes dans les mouvements autonomes en Italie dans les années 70.
Magnifique titre à rallonge.
C'est pour ça, je le redis encore un coup. Et Mélo, tu voulais un peu nous parler maintenant du contexte par rapport aux luttes et aux droits des femmes à ce moment-là en Italie ?
Ouais, alors je vais donner quelques éléments, ça sera pas exhaustif, mais bon, ça donnera quand même un peu des indications. Donc à la fin des années 60, quand le mouvement autonome il démarre et du coup les luttes féministes aussi, il faut savoir que l'Italie à cette époque-là, c'est un pays très 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 catholique. Et du coup, je vous apprendrai rien, le poids du catholicisme sur la condition des femmes, c'est un peu une catastrophe. Donc déjà, c'est une première donnée. Ensuite, il y a aussi un héritage très très lourd de la période fasciste et un truc moi qui m'a énormément frappée et qui m'a mis aussi hyper en colère par rapport à la désinformation qu'il y a autour de ça, c'est qu'il faut savoir que dans ces années-là, les lois qui régissent le statut des femmes au niveau juridique, elles sont majoritairement issues du fascisme. Donc c'est quand même assez dingue, ça veut dire que là, il y a quand même matière à lutter de façon assez évidente et je peux vous donner des exemples. Par exemple, la notion de devoir conjugal, elle empêchait la prise en compte du viol conjugal. Bon, c'est un exemple très concret. Mais il y a aussi le fait qu'il y a un délit qui valait encore dans ces années-là, qui était le délit d'honneur. C'est-à-dire que si un homme commettait un crime sur une femme de sa famille parce que cette femme avait déshonoré la famille par une relation hors mariage, il bénéficiait de circonstances atténuantes. Enfin, c'est quand même assez énorme, quoi.
Et donc, c'est vraiment, encore une fois, sur toute cette sphère politique, c'est vraiment comme si on disait il faut éradiquer le fascisme. Mais par contre, quand le fascisme s'applique aux droits des femmes, là, c'est plus très grave, en fait. On peut le laisser,
voilà, mais c'est ça
laisser
qui est
en place.
Énorme,
quoi.
C'est ça qui est assez énorme. Et que moi, j'en avais jamais entendu parler avant que je me retrouve en face d'une féministe, donc cette fameuse Nicoletta dont je parlais tout à l'heure, qui me donne des exemples très concrets de en quoi, de toute façon, dès la fin des années 60, il y avait matière à lutter de façon très, très concrète, quoi. Et je peux vous donner un autre exemple qui m'a hyper frappée, c'est qu'en fait, il faut savoir que dans le droit italien, le viol s'est passé très tardivement comme un délit contre la personne. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était un délit contre la morale. Ce qui veut dire, si j'explique un peu mieux, ça veut dire qu'un délit contre la morale, c'était un délit qui concernait la société et non pas la femme qui en était victime. Alors qu'un délit contre la personne, bah là, pour le coup, on reconnaît que la personne qui a vécu le viol est la première concernée et que ça fait du mal pas à la société, mais à la personne qui le vit, quoi. Et bon, en plus, ça c'est pas par rapport aux années 70, mais il faut savoir qu'encore aujourd'hui, en Italie, mais comme en France, hein, dans certains cas de figure, un violeur a souvent des circonstances atténuantes. Et elle m'a donné l'exemple, par exemple, d'une ado qui avait porté plainte pour viol contre son père, et comme elle était plus vierge au moment des faits. Bon bah c'était pas si grave, quoi.
Donc ça, enfin c'est histoire super glauque là, c'était il y a quelques années, quoi. C'était pas dans les années 70, quoi.
Voilà. Donc voilà, il y a encore des luttes à mener, on le voit bien.
Oui.
Après, je le disais tout à l'heure, un truc qui m'a frappée, c'est qu'il y a eu une influence énorme du féminisme américain sur le féminisme italien dès le début des années 70 et notamment à travers un bouquin qui a été édité en France aussi et qui a eu vachement d'influence, qui est Notre corps nous-mêmes, et qui a existé aussi en Italie. Alors c'était assez marrant d'entendre Nicoletta me parler de ce bouquin parce que je pense on l'a eu aussi entre les mains, et du coup c'était rigolo en fait de trouver ce point commun. Et puis ensuite tout au long des années 70 il y a eu énormément de formes de lutte féministe. Il y a eu une lutte très très forte autour de l'avortement et du fait de pouvoir accéder à l'avortement. Donc un truc qui m'a frappée aussi dans ce qu'elle m'a dit, c'est que en fait un peu comme en France, mais c'est quand même un peu différent, le fait que l'avortement soit dépénalisé, ça a été une fausse victoire, quoi. Et ça, c'était assez intéressant ce qu'elle avait à dire là-dessus, parce que en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui en Italie, il y a un droit de réserve. C'est comme aux États-Unis, il y a un droit de réserve pour les médecins. C'est-à-dire qu'il y a énormément de médecins qui refusent de pratiquer les avortements. Et en fait, il faut passer par des consultori pour avoir accès aux avortements. Et ces consultori, ils sont largement noyautés par des gens qui sont contre l'avortement. Donc, ce qui est assez délirant quand même.
Et donc ta possibilité d'avorter dépend d'eux, quoi.
Voilà, c'est ça. Et du coup, en plus, il faut savoir que les conditions d'avortement actuellement en Italie, elles sont déplorables parce que, en fait, il y a énormément de médecins qui refusent de pratiquer. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on groupe sur une semaine par mois dans les grandes villes les avortements. Donc, c'est avortement à la chaîne et on fait venir des médecins qui veulent bien pratiquer, généralement d'ailleurs. Et donc, ils viennent pour une semaine et puis hop. Avortement à la chaîne, quoi. Et ça, c'est issu en fait de comment ça s'est passé dans ces années, dans les années 70, et qu'est-ce qui a été réellement obtenu. Et ce qui a été réellement obtenu, c'est la dépénalisation et le fait que ça devienne une pratique ultra normalisée par des règles très très strictes, quoi.
Et voilà, donc ça fait bien sûr écho à notre émission de la semaine dernière autour justement de ce droit à l'avortement et comment finalement c'est bien un État patriarcal qui a légiféré sur le corps des femmes et qui fait que qu'on n'est pas réellement libre de gérer notre corps nous-mêmes.
Alors, je peux donner des dates un peu, c'est peut-être un peu en vrac, mais ça donne quand même un peu des idées. La légalisation du divorce en Italie, ça date de 1974, donc c'est quand même super tardif. Mince, je voulais dire un autre élément que j'avais trouvé. Dès les années 80, début des années 80, il y a déjà des batailles hyper fortes de trans M2F.
Voilà, M2F, on peut préciser, donc c'est selon la terminologie anglaise, male to female, donc c'est pour parler du sexe biologique masculin au sexe féminin.
Et ces luttes-là, donc, bah, déjà, elles arrivent assez tôt par rapport au reste de l'Europe, j'ai l'impression. Et puis, elles sont soutenues activement plus par des collectifs de lesbiennes et de gays. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Si, un truc important, c'est que dans ces années-là, il y a énormément d'auto-édition des groupes de femmes. Donc, il y a des librairies de femmes dans pas mal de villes. Et du coup, ces librairies de femmes, elles sont des points de contact où les nanas passent pour avoir de l'info, récupérer de la documentation ou quoi. Mais ça, c'est un principe qui est assez italien, entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, il y a énormément d'auto-édition et de production d'écrits ou quoi qui circulent de ville en ville et qui permettent en fait de faire passer un peu des idées, de partager des idées et d'avoir un peu des bases comme ça communes de réflexion. Il y a aussi des plannings autogérés. Mais ça, j'ai pas plus de détails. Je sais qu'il y a eu des expériences autour de ça, mais aussi parce qu'en Italie, il y a une tradition assez forte de critique en fait de la médecine institutionnelle et du coup d'expérimentation autour de ça.
Donc, par planning autogéré, on pourrait voir un peu comme les plannings familiaux chez nous, donc qui gèrent des questions de un petit peu de. Enfin, et d'accès à la contraception, de prévention, de suivi gynécologique, etc. Mais du coup, de manière autogérée. Et là, c'est pareil, je pense qu'on peut faire des parallèles quand même avec ce qui s'est passé en France. C'est qu'en France, à la base aussi, les plannings, ce qu'on appelle maintenant les plannings familiaux, c'était pour beaucoup des locaux autogérés par des collectifs de personnes militantes, et essentiellement des femmes. Et ça s'est institutionnalisé, donc ce qui a permis qu'il y en ait partout en France, enfin etc. Mais je pense que cette institutionnalisation, elle n'a pas que des avantages, et parce que dans les pratiques qu'il y a, dans comment sont entendues les personnes qui viennent, etc. C'est peut-être pas toujours que des avantages, quoi.
Je peux donner en fait un peu des exemples des formes multiples que ça a pu prendre les luttes féministes dans ces années-là. Par exemple, à Rome, il y avait un collectif qui s'appelait le CLI, et qui était un collectif non mixte de femmes qui squattait un bâtiment et qui avait des éditions pirates qui diffusaient des textes de Drey Lord et de Monique Wittig. Donc c'est marrant quoi de voir un peu à Padoue il y avait un groupe de féministes qui était proche des opéraïstes qui était un courant de l'époque et qui analysait spécifiquement la question du travail domestique non payé. Donc un peu partout comme ça en Italie, il y avait des groupes de femmes qui s'auto-organisaient pour bosser sur des points spécifiques mais à partir de leur vécu spécifique de femmes quoi. Il y avait aussi je l'ai évoqué tout à l'heure des groupes qui analysaient le pouvoir médical sur le corps des femmes, à partir de là qui critiquaient la science, l'histoire de la science, qui essayaient un peu de reprendre, de reprendre tout ça et puis de tenir un autre discours. Et c'est un peu la préhistoire, entre guillemets, de l'écoféminisme qui s'est développée après. À Pordenone, il y avait un comité de prostituées qui remettait en cause l'idée qu'il y avait une différence entre le fait de vendre sa tête, ses mains ou son sexe. Donc c'est pareil, c'est des luttes qu'on a vu se développer après, quoi, mais qui étaient déjà présentes dans ces années-là. Et par exemple, ce comité de prostituées, il était soutenu pas du tout par l'ensemble du mouvement féministe. On retrouve un peu les mêmes fractures qu'en France, mais plus par des groupes lesbiens.
Dans la diversité aussi des mouvements féministes, etc., à l'époque, je parlais tout à l'heure du travail de Franca Ramé, donc qui est une auteure, metteuse en scène, etc. Par exemple, l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure, donc il est issu d'un recueil qu'elle a écrit avec Dario Fo, qui s'appelle Récits de femmes et autres histoires. Et il se trouve que, en fait, c'est un travail qui est né dans une troupe qu'ils ont montée en 77, justement pour soutenir
les luttes du mouvement féministe. Donc c'était vraiment de la création très engagée. Et ce spectacle, par exemple, il a tourné dans toute l'Italie. Il a été géré, en fait, c'était géré par des groupes féministes. Et la recette des soirées, en fait, elle servait aux différents besoins du mouvement. Et du coup, pas que féministe, en fait. Ça servait à soutenir des occupations d'usines, aussi à faire un local pour les femmes à Rome, à ouvrir justement des consultations, donc un peu comme tu parlais des plannings, tout ça. Donc on voit bien comment tous ces champs-là, ils s'entremêlaient et il y avait une solidarité, quoi.
Bon, c'est vrai que c'est un peu difficile d'avoir... Enfin, en fait, on ne peut pas avoir de discours uniforme sur qu'est-ce qu'a été le féminisme dans ces années-là, parce que, en fait, ça a été ce que les femmes qui participaient à toutes les formes que pouvait prendre l'autonomie en ont fait. Donc, c'est vraiment une espèce de mosaïque comme ça qui part dans tous les sens, et je pense qu'il était aussi vachement ancré dans des luttes locales, parce qu'une spécificité aussi de l'autonomie italienne, c'était des luttes de quartier. Qui s'ancrait dans le quotidien ou quoi. Donc c'est pour ça que je donne un peu plein de petits bouts comme ça. Mais je peux donner encore des exemples. C'est marrant parce que, par exemple, Nicoletta nous disait, mais par rapport à la question de la lutte armée, par exemple, il y a eu des groupes non mixtes de lutte armée, mais il y a aussi eu des femmes dans les Brigades Rouges, par exemple, qui n'étaient pas du tout féministes. Il y a eu des groupes séparatistes qui critiquaient la lutte armée comme une forme de lutte typiquement masculine. Enfin, il y a eu toutes les postures, en fait, possibles et imaginables. Mais ça, on revient là-dessus peut-être tout à l'heure, mais en tout cas ce qui en ressort, c'est que à l'époque, et ben, il y a eu la possibilité, je pense, pour vraiment des tonnes et des tonnes de femmes, de s'organiser collectivement ensemble, globalement un peu foutre des bâtons dans les roues, que ce soit au niveau de leur famille, au niveau de leur couple, au niveau de leur travail ou quoi, et que il y a quand même des choses qui en sont ressorties, et que ces traces qu'en fait qu'on a pu retrouver, et ben, moi je les trouve vachement enthousiasmantes, parce que ça permet de voir que je sais pas comment dire, quoi, qu'il y a eu, il y a des choses qui sont passées, des réflexions qui ont eu, des espèces de mises en pratique. Elle nous a aussi parlé du fait qu'il y a eu pas mal d'expérimentations, de nouvelles façons de relationner au niveau affectif, au niveau sexuel ou quoi. Mais apparemment, ça a duré sur quelques années, puis aujourd'hui, il en reste pour le coup vraiment très très peu de traces, et il n'y a pas eu de continuité. Et j'ai l'impression qu'en fait, les seules personnes qui aujourd'hui en Italie, en tout cas dans les personnes que j'ai croisées, se souviennent de ce qui s'est passé autour des luttes féministes dans ces années-là, c'est les gens qui continuent à lutter à partir de leur vécu spécifique d'oppression aujourd'hui, et c'est les groupes gays, lesbiens et trans.
Et du coup, justement, tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, alors en fait, dans les années 70, il y a eu ce qui s'appelle le Fori, qui était l'équivalent du FAR. En France, donc le Front Homosexuel Armé Révolutionnaire. D'Action Révolutionnaire. Et en fait, le Fori, c'est l'équivalent, quoi, du phare. D'ailleurs, ils étaient potes, il y avait une espèce de jumelage entre Paris et Milan, où en fait, ils se rendaient visite ou quoi. J'ai retrouvé des photos où on les voit ensemble. Et elles sont très belles. Et du coup, en fait, on a rencontré des gens qui tiennent les archives gays et lesbiennes à Milan, et qui, en fait, ont les archives du journal qui était édité par Le Fori, et d'autres journées gays et lesbiennes, dont j'ai oublié le nom, mais il y en a eu plein, enfin, dans ces années-là. Et en fait, en discutant avec les gens qui tiennent ces archives, et ben, ils nous ont dit, ouais, effectivement, nous, au niveau de l'histoire des luttes ce dont on s'inspire le plus dans l'autonomie italienne, c'est les luttes des femmes et les luttes des lesbiennes et des gays, quoi. Mais je peux pas développer forcément plus que ça, mais c'était intéressant de voir que, en tout cas, aujourd'hui, qui c'est qui tient un discours clair sur des ancrages historiques et militants par rapport au féminisme? Et ben, les gays, les lesbiennes de Milan. Après, j'imagine qu'ailleurs aussi, hein, enfin, mais disons que d'autres groupes militants ou quoi, pas du tout, quoi. Et voilà, je voulais le souligner.
Ouais, on va se faire une petite pause musicale. Donc, avec un grand hymne de lutte italien, mais justement, qui est version féministe.
Non.
Non ?
Alors.
Pardon, alors je pensais.
Non, alors on n'a pas, voilà, on voulait passer la Lega version italienne, mais c'était que en cassette, enfin du coup, bon, dernier moment, ça n'a pas marché.
D'accord.
Alors on a la version originale, et pas celle reprise avec des variantes féministes, mais bon, c'est quand même une chanson qui est écrite par des femmes, donc qui repiquaient le riz dans la plaine du Pô, et qui est datée de 1900, et... Peut-être je peux vous lire les paroles vite fait parce qu'elles sont chouettes. Alors, bien que nous soyons des femmes, nous n'avons pas peur. Pour l'amour de nos enfants, nous formons une ligne. Nous avons de bonnes langues et nous nous défendons bien. Mais la liberté ne vient pas parce que nous ne sommes pas unis. Les jaunes avec le patron, il faudrait tous les tuer. Et vous, les beaux messieurs qui êtes si fiers, rabattez votre orgueil et ouvrez votre portefeuille.
Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo. L'unione, cromiri col padrone, cromiri col padrone, e la libertà non viene perché non c'è l'unione, cromiri col padrone, son tutti da ammazzare. Abbiamo delle belle buone lingue, se benché siamo donne, paura non abbiamo. Abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo. Abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio.
Au siège, il y avait aussi plein de filles, des femmes, plus ou moins jeunes, des étudiantes, des ouvrières, des ménagères. Elles avaient fait des manifs ensemble. Elles s'étaient connues pendant des occupations, et au siège, elles se sont choisies un local pour elles seules. Sur la porte, elles ont marqué « Local des femmes » et malheur à ceux qui entrent sans permission, surtout pendant leurs réunions. Elles diffusent du matériel d'information sur la sexualité, la santé, la réappropriation du corps, le salaire des ménagères. Elles font des tas de choses. Elle revendique un centre de consultation autogéré à la mairie. Elle menait des campagnes pressantes pour l'avortement libre et gratuit. Un soir, elles occupent un cinéma qui passe des films porno et avec des polaroïdes, elles photographient au flash les spectateurs. Puis, elles entrent de force dans la cabine de projection et séquestrent les bobines du film. Un autre soir, dans la rue, elles coincent un type qui était un petit truand mouillé dans une affaire de viol qui s'était passée récemment. À 20, elles lui tombent dessus. À coups de matraque, à coups de pied. Des amis à lui sortent d'un bistrot voisin et suivent la scène en ricanant. Nous, les mecs, on se précipite. On s'était planqués à côté, sachant ce qui devait se passer. Mais les filles en colère agitent leur matraque contre les petits truands et contre nous en gueulant. « Allez vous faire voir ! On n'a pas besoin de vous pour nous défendre !» Le lendemain, elles revendiquent leur intervention sur un panneau collé au mur avec une inscription. « Reprenons le droit de vivre la nuit. » Les femmes au siège font de plus en plus bande à part. Quand elles parlent de nous, on comprend bien que ce n'est pas du tout comme quand nous on parle d'elles, au fond comme des mecs. Car même ici au siège, les hommes les considèrent toujours comme des filles, c'est-à-dire comme différentes de nous. Et même sur les filles qui viennent au siège, on fait des plans sur elles, on raconte des ragots, comme font toujours les mecs. Et elles, plus le temps passe, plus elles s'isolent. Elles se réunissent toujours plus en dehors de nous. Et si un mec s'approche quand elles parlent entre elles, il est viré tout de suite. Alors nous, on râle, parce qu'on comprend plus. On se fout d'elles, et elles deviennent agressives. Elles se referment entre elles. Elles ne se déplacent plus qu'entre elles, sortent en voiture seules, nous regardent de travers. Mais qu'est-ce qui se passe, merde ? Un soir, on les voit plus du tout. On se demande où elles sont passées. On fait mille suppositions et on raconte les pires vacheries. On charge Connaissier d'enquêter sur Valériane, même s'il n'est pas très chaud, car il la connaît mieux que nous. Mais dès la première question, elle l'envoie se faire foutre, lui dit de s'arrêter de l'espionner pour tous les autres cons, c'est-à-dire nous. Laurier et Lupin essayent à leur tour de faire parler Mur et Verveine, mais même Topo. Kina et moi, on finit aussi par s'engueuler et là on commence à paniquer. 5 ou 6 jours après, nous voyons qu'elle s'amène à quelques-unes pour mettre au siège une affiche annonçant une réunion d'explication avec nous. Le soir d'après, elle colle l'affiche avec du scotch et des punaises en discutant entre elles, comme si on n'était pas là. Au siège, c'est la guerre. Il y en a qui sont partisans de ne pas assister à la réunion pour faire la même chose qu'elle depuis les derniers temps. Mais ceux qui sont en couple sont plus perplexes. Ils hésitent, ils ont peur. Les autres sont furieux. De toute manière, ils n'ont rien à perdre. Cognassier, lui, est complètement muet. Noisette baille. Il s'en fout de ces histoires de bonnes femmes. Il dit de temps en temps « Elles deviennent folles ?» On n'y peut rien. La réunion s'annonce tendue. Quand j'arrive, elles sont déjà toutes là, alignées, menaçantes, serrées les unes contre les autres. Pas un type qui parle à haute voix. On attend. « Eh bien, on a bien fait de faire les choses de cette façon !» fait Mûrier pour dire quelque chose en essayant d'être le plus naturel possible. « Oui, il fallait ça !» réplique Mante. « Car vous nous avez bien cassé les couilles avec vos réactions à la con. »« Quelle réaction à la con ?» On se regarde, surpris, les yeux se croisent. Et Mante poursuit. « Vous savez que vous nous traitez comme des merdes, bande d'hypocrites. Après, vous faites les étonner, mais à partir d'aujourd'hui, si ça ne change pas, nous, on se barre. »« Barrez-vous donc tout de suite !» gueule Horty furieux qui vous en empêche. « D'accord, dit Mante. Mais avant, on veut vous prouver à quel point vous êtes des cons, des minables dans la moyenne des autres mecs. » Et même si vous jouez aux révolutionnaires et à l'avant-garde du prolétariat, dans vos rapports avec nous, vous êtes à l'arrière-garde, au niveau de mon père et de mon grand-père. Lupin, lui, est sincèrement surpris. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ces salades, que cette façon de voir les choses, de discuter avec nous? Vous disparaissez une semaine, puis vous réapparaissez avec une affiche pour la réunion? D'accord, et vous venez nous traiter de cons, et là, je comprends plus. Alors Valériane prend la parole en regardant fixement Cognassier. Nous, les femmes, on s'est réunies séparément pour discuter entre nous. D'abord spontanément, puis c'est devenu plus sérieux. Un besoin d'exprimer tout ce qu'on avait sur le cœur. La façon de vivre avec vous, ici, ensemble, dans le collectif, dans les luttes, en comparant avec les rapports qu'on avait eus avant. Eh bien, on a découvert qu'il n'y avait aucune différence. Être des camarades, ça devrait vouloir dire être différent des autres. Bien meilleur, être plus avancé sur le plan culturel et surtout sur le plan humain. Mais vous, vous n'êtes pas un millimètre en avant des autres hommes dans les rapports que vous avez avec les femmes. Nous, dans ces réunions entre femmes, on a réussi à tout exprimer, à tout nous dire. Ça a été dur par moments. C'était chouette, mais moche aussi. On s'est tout raconté. Des choses intimes, privées comme on dit. On a tout déballé. Angoisse, sentiment de culpabilité, complexe, d'infériorité. Tout ce qu'on ressent dans nos rapports avec vous, et en particulier avec nos mecs. Là, elle est interrompue par Laurier. Ça en fait trop pour lui. Alors vous vous confessez entre vous, comme avec le curé. Mais Mur le coupe brutalement. Comment tu fais pour être aussi lourd? Lourd quand tu me touches, comme quand tu me baises. Tu ne t'es jamais aperçu à quel point tu es lourd? Laurier ne bronche pas. Ils sont tous les regards braqués sur lui. Mais Mur n'a pas fini. C'est toi l'avant-garde des ouvriers, toi qui fais le mariole au syndicat. Je sais que tu te régales à jouer les « je sais tout » dans les usines où il y a des ouvrières. Comme ça, à l'occasion, tu t'en tapes une après la réunion. Toi et ton ami Horty, au lieu de parler des 40 heures payées 35, vous ne parlez pas de ce qui se passe dans les boîtes, les mains au cul, la baisse dans les chiottes. Seulement autrefois, c'était les contremaîtres qui draguaient dans les ateliers. Mais maintenant, c'est les avant-gardes ouvrières comme vous. Laurier est blanc comme un linge. À peine s'il réussit à bredouiller. C'est ça ta libération de la femme? Crier partout que je te baise mal? Va donc te faire baiser par un autre, puisque c'est la seule chose que t'as dans la tête. Le bras de Mur se détend comme un ressort et une orange à moitié pelée qu'elle tenait part en direction de la gueule de Laurier. Elle rate son coup et c'est Aïe derrière qui la reçoit en pleine figure. Mais dans le silence général, il ne bronche pas. On s'attend tous à ce qu'il explose. Il se contente de sortir son mouchoir, de s'essuyer rapidement le visage et de lisser ses moustaches. Puis il se lève et s'en va dans une autre salle, et c'est Verveine qui prend la parole, un peu tendue. Je voulais dire que ce n'est pas que les rapports entre hommes et femmes à l'usine sont différents de ceux qu'il y a dans notre collectif. C'est la même merde, les mêmes rôles. Et toi, Noisette, tu ferais mieux de te taire au lieu de ricaner de cette manière ironique. Et ça vaudrait vraiment mieux, vu que pour baiser, tu vas voir les putes et qu'ici, tu fais celui que ces choses-là n'intéressent pas. Je lui coupe la parole. C'est pas juste d'insulter Noisette de cette façon. Ses attaques personnelles contre les copains, c'est exagéré. Kina doit en avoir gros sur le cœur contre moi, car elle m'agresse tout de suite. Toi aussi, tu ferais mieux de la fermer. Tu fais toujours semblant de penser à autre chose. La révolution d'abord et le cul après. Au besoin en cachette, mais je suis sûre qu'en réalité, tu te taperais bien n'importe laquelle d'entre nous en pensant à autre chose. La restructuration, la crise, la décentralisation de la production. De toute façon, c'est pas important. Nous, on est en degré en dessous. On est bonne qu'à ça, ou à faire marcher les Ronéo et distribuer des tracts. Voilà, j'en ai pris pour mon grade, moi aussi. Elle répète toute la même chose, c'est chiant à la fin. Alors je me lève et je m'en vais, sans même faire semblant d'être vexée. Simplement, je décampe. 5 minutes se passent, et Cognassi arrive aussi. Lui, il n'a pas ouvert la bouche. Il reste planté devant Aïe et moi. On est assis sur 2 chaises et on se tait. Après, c'est Horty qui arrive avec Noisette. Il est furieux. À mon avis, il faut leur donner 2 claques à chacune. Et Noisette ajoute « Peut-être qu'elles sont devenues lesbiennes ?» Mais Cognassi remue la tête. Je crois qu'il pensait à Valériane et qu'il avait peur pour l'avenir de son rapport avec elle. Mais j'ai compris ensuite, on a tous compris, qu'il ne s'agissait pas seulement de petites histoires personnelles. Il s'agissait d'une histoire beaucoup plus importante. Il s'agissait, comme on l'a bien vu après, d'un traumatisme, d'un grand traumatisme, d'une grande fracture, peut-être plus grande encore que toutes celles qu'on était en train de faire et qui ensuite nous a tous changés.
Alors merci Mélo pour cet extrait d'un bouquin qui s'appelle « Les Invisibles ». Et je trouve qu'il retrace bien l'ambiance de l'époque, quoi. Du coup, c'est quoi exactement comme récit ?
Alors, Les Invisibles, donc, de Nanni Balestrini, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes prolétaires à Milan dans les années 70. Et du coup, ça retrace un peu ce que c'était leur vie quotidienne, comment ils luttaient, ce qui se passait entre eux, ou quoi. Et c'est hyper intéressant.
C'est très documentaire, hyper... en fait, quoi.
Ouais, carrément. Bah, ça donne une idée de l'ambiance, en fait, de l'époque.
Ok, une petite pause musicale avec un morceau, et ben ce coup-ci français, sur un morceau sur le viol.
Au cœur du Vietnam, à la fin de l'hiver, des centaines de femmes survivaient à la guerre. Les GI sont arrivés, les ont toutes violées, torturées, massacrées, c'était à Milet. Je dis que ces viols sont pas fatalités, mais sont enseignés dans toutes les armées, dans toutes les armées de notre société. Fascistes au Chili, français en Algérie. Nous femmes, nous disons non à la fatalité. Nous femmes, nous disons non au viol légalisé. Victimes de l'ordre que nous subissons, victimes de l'ordre que nous changeons. Le sang des femmes qui sont mortes sans arrêt, la mémoire des corps mutilés. Cœur de leur chambre à la fin du jour, des centaines de femmes font quand même l'amour. Quand ils se font tendre et qu'on est fatigué, on ne peut refuser parce qu'on est marié. Je dis que c'est du viol très bien dissimulé, et que celui qui viole est lui-même abusé. Ce devoir conjugué tous les samedis soirs, cette misère dans le noir, est-ce la fatalité? Nous femmes, nous disons non à la fatalité. Nous femmes, nous disons non au viol.
chantent parleront mieux que toi de la révolution.
Au cœur des usines, au fond des ateliers, des centaines de filles travaillent à s'épuiser. Et pour l'augmentation, faut pas faire la fière. C'est dans le lit du patron qu'il faut régler l'affaire. Je dis que c'est du viol tout à fait intégré dans les cadences folles de tant d'ateliers. Et si le droit de cuissage date du Moyen Âge, il est toujours bien vivant dans nos chaînes maintenant. Nous femmes, nous disons non à la fatalité. Nous femmes, nous disons non au viol légalisé. Victimes d'un ordre que nous subissons, victimes d'un ordre que nous changeons. La peur des femmes qui mourront sans arrêt, la honte des corps qui se louent et s'achètent, diront mieux que toi ma colère qui monte, parleront mieux que toi de la révolution, diront mieux que toi ma colère qui monte, parleront mieux que toi de la révolution.
Le jour viendra où nous
Donc vous êtes toujours à l'écoute de l'émission féministe Dégenrée et directement en lien avec la chanson qu'on vient d'écouter, une autre information que j'ai appris à l'occasion de ma rencontre avec Nicoletta, donc cette nénette que j'ai rencontrée à Milan l'été dernier, c'est que en fait le viol ça a été une arme politique dans l'Italie des années 70 contre les femmes d'ultra gauche. Et que ça c'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler, donc c'est pareil, c'est assez révélateur quand même, c'est-à-dire qu'au bout de pratiquement 2 ans de recherche sur l'autonomie italienne, j'avais trouvé nulle part indication de ce phénomène-là, c'est-à-dire que les femmes qui étaient actives dans le mouvement à cette époque-là, des viols, il y en a eu des tonnes, quoi. Quand je parle de viol en tant qu'arme politique, c'est que c'était une répression directement à l'encontre des femmes, et que ça j'avais envie de le dire.
Oui, tu veux dire pas en fait des viols à l'intérieur du mouvement, mais enfin, je veux dire, il y en a eu aussi, mais là, ce que tu parles du viol du coup
comme arme politique,
c'était pour atteindre le mouvement, des viols perpétrés par, j'imagine, des fascistes, des flics, etc.
Voilà. Donc, c'est le genre d'information, toujours pareil. Déjà qu'il y a pas de mémoire en général, mais alors par rapport à ce genre d'information, j'ai l'impression encore moins. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que je me suis pris un peu en pleine gueule quand Nicoletta m'a dit ça, parce que je me suis dit putain, mais c'est dingue. Pourquoi on me l'a jamais dit, quoi ? Et pourquoi je l'ai jamais trouvé nulle part, quoi ? Voilà.
Par rapport à ces questions sur le viol, justement, aussi, en recherchant un peu dans les mouvements, féministes, en France, c'était un truc qui était pas mal en question. Enfin, déjà, parce qu'à l'intérieur des groupes d'extrême-gauche, il était reproché aux féministes d'utiliser la justice et de mettre en procès, enfin, de demander des procès... pour les violeurs, donc c'était déjà un des points de discussion. Et aussi, une des par exemple revendications féministes qui a été lancée à l'époque, c'était la question du port d'armes pour les femmes. Du coup, j'ai trouvé un texte qui est assez intéressant, quoi, qui montre un peu l'ambiance des discussions de l'époque par rapport à la violence, tout ça. Dans Histoire du MLF, qui est un bouquin écrit par Annette Pizan et Anne Tristan, qui sont deux militantes du MLF de la première heure. Donc c'est un chapitre qui s'appelle « Une violence justifiée ». Certaines violences ne peuvent être combattues que par la violence. Je pose sérieusement la question. Pouvait-on venir à bout de Hitler avec de bonnes paroles ou par une lutte juridique ? On contestera ma comparaison. En face des femmes, il n'y a pas Hitler, mais des hommes, des maris... des pères, des frères.
rien à voir avec la Gestapo. Là, il nœud de la question. Si on n'accepte pas la violence des femmes pour la cause féministe, c'est qu'on juge que ce combat ne mérite pas des moyens aussi extrêmes. Nous ne ferons la preuve qu'il les mérite effectivement qu'en osant utiliser de tels moyens. S'il est parmi nous des femmes assez gonflées pour utiliser la violence, elles doivent le faire. Elles constitueront l'aile extrême du mouvement, celle qui fait avancer la cause. Pour faire avancer la cause des femmes, il faut remettre en question leur sous-développement physique qui permet toutes les agressions et surtout leur enfermement dans un modèle de pseudo-douceur qui a un blocage encore plus grave à l'égard des agressions de l'autre. D'où le danger de formules pour le moins ambiguës prononcées par certains groupes féministes, formules qui rassurent les hommes. Entre guillemets, laissons la violence aux hommes, il ne faut pas utiliser les mêmes moyens que les hommes. Nous sommes à la croisée des chemins. Allons-nous prêcher la bonne parole comme le Christ et réussir où il a échoué avant nous ? Au nom de quelle logique serions-nous les seuls dans la nature à devoir être non-violentes ? C'est aussi bête que de vouloir toutes les femmes à l'image des mannequins de chez Dior. Il ne sert à rien de se lamenter sur la taille de la lanceuse de poids soviétique, elle n'avait sûrement au départ aucun des critères nécessaires aux présentations de mode, donc elle a bien fait de chercher à se réaliser dans un autre domaine. En tant que féministes, nous n'avons pas à choisir à la place des femmes. Nous pouvons dire « nous sommes contre la violence », mais il est grave de déclarer « il ne faut pas utiliser les moyens des hommes ». Les moyens n'ont pas de sexe. Le 18 juin 1976, au cours d'une réunion publique de la Ligue, j'aborde ce problème. Des centaines de femmes extérieures au mouvement sont là. Elles écoutent avec attention, le thème de la violence les passionne. Une avocate dira « on aurait dit une réunion de fascistes ». Qu'aurait-elle pensé si à un meeting contre Pinochet, des syndicalistes chiliens avaient déclaré « contre ce type de dictature, il faut utiliser la violence ». Naturellement, elle n'aurait soufflé mot. Concrètement, immédiatement, allons-nous continuer, nous féministes, à nous battre pour qu'éventuellement nos arrière-arrière-petites-filles ne soient plus violées, lorsqu'on se demande pourquoi et comment les mentalités auront changé ? Ou pouvons-nous enfin, dès à présent, nous donner les moyens d'assurer notre sécurité ? Ces moyens existent, il suffit de demander le droit au port d'armes pour les femmes. Quel tollé cette proposition ! On va te la riser tout le monde, c'est dangereux, imagine n'importe quelle femme. Et ainsi de suite. Comme nous sommes raisonnables, désespérément raisonnables. L'histoire a broyé les femmes, elles ont toujours peur de lever le petit doigt pour ne pas déranger l'ordre de la planète. Là je résume, après elle parle d'un texte d'Annie Cohen qui justement demande le port d'armes pour les femmes, et elle parle de la réaction d'un journaliste. Donc ce journaliste, Bruno Frappa, nous rappelle et cherche à entamer la discussion avec nous pour souligner tous les dangers de notre prise de position. Demander le port d'armes sera dangereux pour les femmes. Vous ne pouvez tout de même pas comparer votre situation à celle des Palestiniens. Ceux qui, je cite, « jusqu'à présent avaient le respect de la faiblesse, ne se gêneront plus ». Fin des guillemets. Encore une fois, est-ce le but d'un groupe révolutionnaire d'obtenir le respect de la faiblesse ? Celles parmi les féministes qui s'opposent à nos prises de position sur la violence savent très bien que notre lutte contre le viol sera populaire parmi les masses médias, seulement si nous précisons bien, nous ne voulons pas imiter les hommes. C'est le sésame qui fait tout accepter, mais aussi qui défigure une lutte juste. Il faut se souvenir, pour mieux comprendre la mauvaise querelle faite aux féministes à propos de la violence, que la violence des femmes est en fait très bien acceptée lorsqu'elle sert un groupe d'hommes. De tout temps, des femmes très nombreuses ont utilisé la violence dans le cadre de combats d'hommes. Certains se sont bien indignés de leur violence, alors que, entre guillemets, une femme est faite pour donner la vie, du temps de leurs exploits, mais le vent de l'histoire ayant soufflé dans le sens des causes qu'elles défendaient, personne ne s'étonne plus de leurs gestes aujourd'hui. Autrement dit, ce n'est pas la violence des femmes que l'on conteste fondamentalement, c'est la violence au service d'un mouvement féministe. C'est donc la violence des femmes contre les hommes que l'on veut à tout prix éviter. Alors que quotidiennement, les faits divers regorgent de 4 femmes victimes de la violence des hommes à l'égard des femmes. Voilà, c'était un peu pour donner une idée des débats de l'époque, même à l'intérieur des mouvements féministes.
Sur l'usage de la violence ou non, quoi. Ouais. Mais du coup, peut-être pour conclure sur ce que j'ai essayé d'amener comme élément... comme information sur ce qui s'est passé donc en Italie dans les années 70 au sein du mouvement autonome et du coup des mouvements féministes au sein de ce mouvement autonome, j'avais envie de parler en dernier lieu de justement de la question de la violence et
qui comme tu dis
a été beaucoup employée pour discréditer tout ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi.
Ouais, parce que c'est ce qu'on en retient vachement aujourd'hui, de dire oui, l'autonomie italienne, ça a été la lutte armée, ça a été les attentats, etc. Et d'ailleurs, au passage, je ne l'ai pas du tout dit dans l'émission, mais il faut savoir que tous les, enfin, les attentats les plus sanglants de ces années-là sont le fait de fascistes et pas du tout de l'extrême gauche. Donc je le rappelle parce que encore dernièrement, j'ai entendu des gens me soutenir le contraire. Et ça a été prouvé, enfin, suite à des enquêtes policières, il y a eu des procès et tout. Mais bon, toujours est-il que en fait, donc le mouvement autonome qui a duré 10 ans, effectivement, il s'est fini dans le sang. Ça, c'est une réalité. Mais disons qu'il y a des tonnes de d'éléments qui permettent de comprendre en fait comment on en est arrivé là et en fait ce qu'il faut voir c'est que étant donné que les femmes étaient déjà présentes dès le début du mouvement et ben elles ont aussi été présentes sous la forme de d'actions directes violentes et de participation à des groupes de lutte armée évidemment.
Et oui, la question se posait pas. Elles ont fait des choix stratégiques avec les groupes politiques dont elles faisaient partie, quoi.
Après, il y aurait matière à rentrer dans le détail, et notamment, ça serait hyper intéressant d'avoir des témoignages directs de comment ça a été vécu par ces femmes, la participation à ces groupes de lutte armée. Mais il y a notamment un documentaire qui s'appelle Do You Remember Revolution, avec des témoignages de quatre anciennes brigadistes, donc quatre femmes qui ont fait partie des Brigades Rouges et qui racontent un peu leur vécu autour de ça, qui est très intéressant. Mais
ouais, d'ailleurs, moi, je pense, j'aimerais bien le reprojeter un coup à Grenoble, donc on vous tiendra au courant.
Ouais, pour une projection publique, carrément. Mais c'est vrai que, par exemple, dans ce documentaire-là, c'est hyper intéressant de voir, notamment, je pense, à l'une des brigadistes qui raconte qu'au moment où elle a fait le choix de la lutte armée, elle était mère d'une petite fille, et que, en fait, ça, c'est extrêmement rare, en fait, que des femmes aient fait le choix de la clandestinité en étant mère, et qu'elle raconte, en fait, comment elle a pris cette décision-là, et comment elle a pris cette décision seule, et comment elle l'a assumée et comment même elle est partie de son vécu de mère en fait pour prendre cette décision, quand elle raconte que en fait c'est parce qu'elle se projetait dans un avenir meilleur pour sa fille et que en fait elle voulait agir sur le fait que cet avenir meilleur il arrive le plus vite possible. Enfin, c'est vachement intéressant comment elle explique ça aussi avec ses mots elle quoi, qui lui sont propres. Et bon voilà, enfin moi je voulais juste rappeler que évidemment par nature il y a rien qui est déterminé quoi, et que c'est pas parce que on est femme que qu'on va pas pouvoir faire usage de la violence, et que dans ces années-là il y avait des groupes de lutte armée non mixtes par exemple comme Lilith pour le communisme, où il y a eu des attentats qui ont été perpétrés par des femmes et pour des raisons féministes, comme des attentats contre des gynécologues. Des attentats à la bombe, il y a eu des jambisations, ce que j'expliquais tout à l'heure, donc des gynécos qui se sont fait tirer dans les jambes parce qu'ils refusaient de pratiquer des avortements, ou parce qu'ils charcutaient des nanas, ou ce genre de choses.
Ok. Bon, comme d'habitude pour notre émission, on aurait encore eu des trucs
on
à dire,
pu développer, ouais.
On finit en retard, comme à chaque fois, donc je crois qu'on va devoir vous laisser. Et on voulait faire un petit clin d'œil musical à l'émission. Donc c'est une émission de radio italienne, donc à Rome, qui est tous les mardis et qui est une émission féministe et lesbienne qui existe
sur Radio
depuis pas mal d'années. Et qui a l'air vraiment chouette. Voilà, elles ont fait une compilation et là c'était pour lancer leur jingle qui est assez chouette, et peut-être si on a le temps on enchaînera avec un dernier morceau italien de l'époque.
Voilà, donc souvenons-nous de ces périodes mémorables dans nos modes de lutte actuels.
Source d'inspiration.
Merci Mélo, salut.
All I want is a room somewhere.
Martedì femminista autogestito.
Far away from the cold night air. With one enormous JM.
Assorando già ridevo al 87.9, testa tanto gli snack e lo stira di onda rossa.
My goodness, are there still feminists in Italy?
Thank you.
50 anni resta sola, i figli andati via, uno ad uno, la casa vuota. A che serve svegliarsi al mattino, preparare il caffè? Ed anche tu sei vecchio in pensione, a che servi ormai? Almeno una volta tu avevi gli amici e il bar. Io invece ho trascorso la vita in casa a lavorare. Nessuno ha calcolato mai le ore di lavoro, sai, non mi restava il tempo neppure un momento da dedicare un poco a me. Per me non c'erano feste, non era mai vacanza, neppure a Natale, mai. Così come l'ho detto, ho sempre fatto tutto, il sacrificio è una virtù. Per il bene dei miei figli mi sono sacrificata, non ho mai chiesto niente più. Ed ora che sono da sola qualche cosa farei, ma è tardi e mi resta la voglia dei figli miei. Ma un giorno mia figlia mi disse, mamma sai,
mamma sai,
nel mondo le donne han capito e stanno lottando ormai,
stanno lottando ormai.
La vita che hai fatto tu dovremo vendicarla, sai. Il tuo lavoro ha un prezzo che a te non è pagato, è un costo tutto risparmiato. A te resta l'inganno, il mito della madre, chi ci guadagna il capitale. Ma le donne han capito che il nemico è,
stanno già lottando
contro lo sfruttamento, si stanno organizzando,
si stanno organizzando.
La vita che hai fatto tu dovremo vendicarla, sai. Il tuo lavoro ha un prezzo che a te non è pagato, è un costo tutto risparmiato. A te resta l'inganno, il mito della madre, chi ci guadagna il capitale.